Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, mardi 21 avril 2020, j'aimerais partager avec vous le thème « Le triomphe de la foi ». Dimanche, je vous ai apporté un message concernant le naufrage de la foi. Nous avons pu voir différents textes qui nous amènent à un examen de cœur, d'âme, d'esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi nous encourager les uns les autres dans cette marche de triomphante de la foi, cette marche qui nous amène de plus en plus à nous approcher de Dieu. J'aimerais lire avec vous quelques textes de la parole de Dieu. Le premier se trouve en 1 Jean, chapitre 5, les versets 3 et 4. 1 Jean, chapitre 5, les versets 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. L'amour de Dieu, le texte introduit, cet amour, consiste dans cette capacité, ce désir, cette volonté de garder les commandements de Dieu. Nous sommes invités, jour après jour, à témoigner notre amour envers Dieu, pas seulement en parole, parce qu'en parole, c'est très simple d'aimer. On aime beaucoup en parole, mais que nos paroles soient suivies d'actes, c'est ce qui amène du poids, je dirais, de la dimension à l'amour. C'est une démonstration, c'est une preuve, c'est aussi une manière de bâtir la relation. Et donc, il est question d'aimer Dieu, mais aussi d'exercer notre foi. Et la foi, c'est la confiance en Dieu. Mettre notre confiance en Dieu, expérimenter et vivre cette confiance en Dieu. Donc, quand notre foi, elle est active, elle est vivante, elle est en action, quand notre foi est animée par l'amour que nous avons de Dieu, par l'amour que nous avons aussi et nous recevons jour après jour de la part de Dieu, nous sommes amenés à avancer et à remporter tout un ensemble de combats, tout un ensemble de situations pour lesquelles, sans cet amour, sans cette foi, on aurait été certainement au dépourvu face aux difficultés, privé de soutien, privé d'aide, privé de secours. Cet amour de Dieu est pour nous quelque chose de très important. Et pour tous ceux et celles qui souhaitent encore aujourd'hui expérimenter cet amour de Dieu, l'amour de Dieu est suffisant pour tout le monde. On entend parler de crise de médicaments, pas suffisamment de médicaments, pas suffisamment de ceci, pas suffisamment de masques, pas suffisamment de vaccins. Mais je voudrais vous dire que l'amour de Dieu, il y en a suffisamment pour tout le monde. Il y en a suffisamment pour tous les peuples, il y en a suffisamment pour tout cœur qui désire en recevoir. C'est une source inépuisable. Il est question aussi pour nous, pas seulement d'aimer Dieu, d'accepter de vivre par la foi et en foi, mais aussi d'accepter de nous soumettre et de vivre ses commandements, sa parole. Puisque, comme le texte nous le dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles dans la mesure où c'est l'amour qui nous anime et c'est l'amour qui nous permet de comprendre ces commandements. Avez-vous déjà fait attention quand une loi vient à être annoncée? Parfois, on a du mal à comprendre cette loi qui nous semble être quelque chose qui vient brider notre liberté. Toutefois, quand cette même loi, elle est expliquée et elle est dans un cadre bien précis et qu'elle nous fait ressentir la volonté de nous protéger, à partir de là, cette loi n'est plus pénible, mais je dirais quelque part, elle reçoit notre consensus. La parole de Dieu souhaite s'inscrire dans notre cœur, mais il est question aussi pour nous de l'approcher de la bonne manière. Nous sommes souvent tentés d'approcher les choses avec un sens très critique et parfois sans prendre le temps d'examiner la volonté de Dieu, examiner la loi de Dieu, examiner les raisons de ses lois. Elles sont là en effet pour nous aider, pour nous encourager, pour nous permettre de triompher, puisqu'il est question de triompher, mais on ne peut pas triompher sans avoir au préalable accepté de vivre en Christ, accepté une nouvelle naissance en Jésus-Christ, puisque le texte nous dit « parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Il est question d'une nouvelle naissance. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, on est malheureusement dans cette création et créature qui a échoué à cause du péché. La nouvelle naissance en Jésus-Christ nous donne un changement spirituel, mais aussi de cap dans notre vie, puisque nous décidons d'arrêter notre ancienne vie sous le régime et sous l'autorité du péché pour marcher selon la volonté et l'autorité de Christ. Et le texte dit : et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. La foi, comme nous l'avons déjà dit en introduction, est l'exercice pratique de cet amour, l'exercice pratique des lois de Dieu, un exercice pratique de relation avec Dieu. Pour triompher, néanmoins, il faut accepter de se battre et d'exercer sa foi. J'aimerais faire une deuxième lecture avec vous dans le psaume 25. Psaume 25, à partir du verset 1 au verset 22. Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins. Enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité. Et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi, selon ta bienveillance, à cause de ta bonté, Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa descendance possédera le pays. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me haïssent. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas couvert de honte quand je me réfugie en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, libère Israël de toutes ses détresses. Amen. En faisant la lecture de ce psaume de David, nous voyons que apparaissent certains éléments importants et qui viennent nous encourager dans cette marche triomphante de la foi. Mais David nous fait aussi ressentir les différentes phases que sa vie traverse. Différentes phases qui font partie de la vie de tous les jours. Tous les jours, on aimerait pouvoir nous lever et avoir une journée sans problème, sans difficulté. Toujours souriant, toujours avec une bonne parole, une bonne attitude. Ne pas traverser ni d'épreuves physiques, ni d'épreuves morales, ni d'épreuves quelconques, parce qu'on aimerait des journées, soi-disant, parfaites. Heureusement, il y a des jours qui sont comme ça, mais au combien de jours dans l'année ne vont pas comme on aurait espéré, aimé, désiré. Et on voit des phases qui viennent nous interpeller et mettre aussi notre foi en exercice. David nous partage sa marche de la foi, son désir et sa volonté de triompher par la foi en Dieu. Première chose, il fait de Dieu sa ressource. Et Dieu est une ressource inépuisable. Il dira « Vers toi, j'élève mon âme. En toi, je me confie. » Et au verset 3, il dit « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. » C'est une acclamation, c'est une certitude, c'est un désir et une volonté de dire au monde entier que ceux et celles qui se confient en Dieu trouveront une source inépuisable. Il arrive des fois qu'on se sent épuisé. Combien de fois, déjà en démarrant notre journée, on se dit « Oh, je suis déjà fatigué, qu'est-ce que ça va être ce soir ?» Parfois, j'entends dire « Vivement ce soir » et on vient juste de se lever, n'est-ce pas ? La volonté de retrouver une possibilité de se ressourcer. Alors si aujourd'hui c'est le cas pour vous, si aujourd'hui vous avez le sentiment de vous sentir épuisé, vidé, je voudrais vous inviter à expérimenter, comme David, le roi David, nous encourage à tourner nos regards vers Dieu, à aller vers le Seigneur et élever notre âme vers lui. Il serait facile de dire à Dieu, viens vers moi. Mais le roi David, il avait compris qu'il était important d'aller vers Dieu, de nous élever vers le Seigneur. Parce que si on reste dans nos raisonnements, dans nos réflexions, excusez-moi, on va rester ratiboisé, je dirais même couché, au sol. On est déjà écrasé par le poids de nos difficultés, qu'est-ce qu'on pourrait en réalité espérer en restant dans notre position ? Mais le fait de nous approcher de Dieu, le fait de dire « Seigneur, je veux m'élever vers toi, Seigneur, je prends de la hauteur vis-à-vis des difficultés et des épreuves, je veux placer ma confiance en toi, je veux mettre en action ma foi pour triompher de mes difficultés. » Et quelle espérance merveilleuse et quelle promesse qui est celle qui nous est acclamée au verset 3 « Tous ceux qui espèrent en Dieu, ne seront pas dans la honte. Ils n'auront pas à rougir. » Dieu soit loué pour cette ressource inépuisable. On continue notre examen, notre méditation de ce texte, et on voit qu'à la suite, il y a ce désir de connaître, d'emprunter, de choisir le bon chemin. Il dira, Éternel, verset 4, « Fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies. » À combien c'est beau de savoir, quand on doit aller quelque part, comment y aller. Il arrive parfois qu'on est amené à faire des voyages, se déplacer dans une ville où c'est la première fois qu'on y va, on n'est pas forcément à l'aise. Heureusement, maintenant, on a ces petits boîtiers, ces GPS qui nous indiquent le chemin, ils sont très bien, c'est une très bonne invention, on est beaucoup plus serein. Mais je me rappelle du temps où il fallait prendre déjà notre carte pour essayer de voir la ville où on devait aller et il fallait faire notre parcours pour essayer d'y arriver le plus rapidement possible, en essayant d'économiser quand même quelques sous au passage, en faisant le bon choix entre l'autoroute et la nationale. Et quand on arrivait dans un endroit où le nom ne figurait pas sur la carte, on se sentait tout de suite perdu. Et quand on arrivait finalement à l'endroit dont on était, auquel on était attendu, le lieu de notre rendez-vous, oh, quel soulagement finalement d'arriver. Mais encore, une fois arrivé dans la ville, il fallait trouver l'adresse exacte. Et encore là, combien de fois il fallait s'arrêter, baisser la vitre, demander, questionner les passants, s'il y en avait, s'ils avaient envie de répondre. Un stress pas possible. Combien c'est merveilleux, quand en réalité on peut mettre de côté tout cela, puisque je pense que vous avez fait l'expérience comme moi, de vous être perdu à quelques reprises, d'avoir fait peut-être le tour du quartier, être passé devant la bonne adresse un certain nombre de fois, ou voire même être arrivé à l'autre côté de la ville et devoir reprendre votre patience et revenir vers l'endroit où on vous attend. Éternel, fais-moi connaître tes chemins. Enseigne-moi tes voies. Seigneur, je n'ai plus envie de errer comme ça, de me trouver sur des chemins qui m'amène nulle part ou qui m'amène à m'égarer. Seigneur, aide-moi à connaître la voie de la vérité. Verset 5, il dit « Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, à nouveau, j'espère tous les jours. » Connaître la vérité de Dieu. Et nous laisser instruire, nous laisser enseigner, laisser Dieu déposer dans notre cœur cette vérité qui est un fondement, cette vérité sur laquelle le monde entier est basé. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de théories. Et les hommes essayent de baser leur vie sur des théories. Mais ce n'est pas mieux de se baser sur une vérité que sur une théorie. Ah, il y a des belles théories, des merveilleuses théories et des fois des belles histoires qui les accompagnent. Mais quand on apprend la vérité, souvent on se rend compte que toutes les théories qu'on a pu entendre jusque-là, elles étaient bien loin de la vérité. Le psalmiste dit à Dieu, « Fais-moi cheminer dans ta vérité. Seigneur, je veux prendre le bon chemin, celui qui m'amène du point A au point B, et je n'ai pas envie de faire des détours, voire des mauvais détours, parce que vous savez, dans les mauvais chemins, on rencontre aussi les mauvaises personnes, on fait des mauvaises rencontres, et très souvent, c'est sur ces chemins qu'on souffre énormément. » Le deuxième voie qu'il veut apprendre, le psalmiste, il dira, « Seigneur, fais-moi connaître aussi la voie de la grâce. » Verset 6 dira, « Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. » En effet, le roi David, il avait compris, découvert, en lisant les 5 livres qui avaient été laissés par Moïse, en apprenant, en entendant ce qui était enseigné vis-à-vis de Dieu, que la grâce et la volonté de Dieu, c'était celle d'accompagner sa créature jour après jour. Il avait saisi combien elle était importante, cette grâce et cet amour de Dieu. Je vous rappelle qu'à la base, David était un petit berger. Un petit berger, un jeune homme qui prenait soin des brebis, les protégeait, un cœur vaillant, certes, quelqu'un qui avait des capacités et il aimait jouer de la musique, il aimait louer Dieu, son cœur était disposé vers Dieu. Et Dieu est allé le choisir, lui qui était, je dirais, un petit berger, pour en faire un roi. Lui, il avait en réalité expérimenté déjà la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, mais vis-à-vis de ses erreurs, vis-à-vis des mauvais choix, vis-à-vis de ses péchés, il avait pu aussi expérimenter la grâce, le pardon, le secours de Dieu. Pour emprunter la voie de la grâce, il faut accepter aussi d'emprunter la voie de la repentance et du pardon. Au verset 7, il dit « Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté, ô Éternel. » En effet, David y considère que, et à juste titre, et chacun de nous, nous devons avoir cette même considération, cette même compréhension, que si c'était par nos péchés, la seule chose qui serait juste et équitable, c'est une condamnation. À cause de nos fautes, à cause de nos erreurs. Mais la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ par le pardon qu'il nous a accordé en venant payant à la croix notre facture, notre erreur, notre déchéance. Il a pris sur nous nos fautes, dit la parole de Dieu. Et donc il a payé pour nos dettes et nos transgressions, mes péchés. Et le roi David dira, ne te souviens pas du passé. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance. Presque à dire, ô Éternel, je préfère que tu me regardes avec tes yeux et non pas avec les miens. Mon regard sur moi-même, forcément, me ramène à ce que je suis, qu'un pécheur. Mais ton regard, sur moi, est un regard de compassion, d'amour, de bonté, de bienveillance. Alors je préfère que tu me regardes avec tes yeux et pas avec les miens. Au verset 8, il dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles son chemin. » L'Éternel est bon et droit. Mais ce cheminement, toutes ces voies qu'on a pu tout simplement en faire une petite liste, mais un petit rappel, la voie de la vérité, la voie de la grâce, la voie de la repentance, du pardon, implique quand même une certaine humilité. Puisqu'il dit, il fait cheminer les humbles. L'orgueil, c'est quelque chose d'horrible. L'orgueil nous mène à nous prendre pour plus que ce que nous sommes. L'orgueil nous amène à ne pas accepter la vérité. L'orgueil fait que nous prenons des positions et nous tenons tête, même face à toutes les démonstrations possibles et imaginables, de nos erreurs. L'orgueil nous amène à avoir un regard qui est faussé. Un jugement qui est faussé, des sentiments qui sont faussés. L'orgueil est un poison. L'orgueil est quelque chose avec lequel nous devons tous nous battre. Et tant que nous n'avons pas cette démarche d'humilité, je dirais que les chemins de Dieu demeurent pour nous comme une porte fermée. Puisque la parole de Dieu dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Quand on veut emprunter un chemin et que la porte est fermée, on a une certaine résistance, n'est-ce pas? Il y a un temps, les villes, elles avaient une porte principale par laquelle on rentrait. Et tant que cette porte n'était pas ouverte, on ne pouvait pas accéder à la ville. Il n'y avait pas d'autorisation qui permettait de passer outre. Il fallait absolument emprunter la bonne porte. Encore une fois, il nous est dit qu'il est question de cheminer avec humilité. Et cette même humilité, cette reconnaissance de ce que nous sommes vraiment, cette humilité qui nous amène à accepter nos fautes, nos erreurs, nous permettent d'emprunter le chemin puisque il nous est dit, l'Éternel, il est bon et il est droit, donc il est juste, il est bon, il a une volonté, un désir de nous faire du bien. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il veut nous montrer la bonne route à entreprendre. Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si nous voulons emprunter le chemin qui nous est préparé, disposé, offert par Dieu, l'humilité résonne comme un code d'accès qui permet l'ouverture de la porte. Je vous rappelle que cette humilité est une chose, mais si l'humilité n'est pas accompagnée aussi de cette repentance, ne demeure qu'une forme. Nous pouvons avoir une forme d'humilité. Vous savez très bien qu'il existe la fausse humilité, n'est-ce pas ? Et la fausse humilité, c'est dire à quelqu'un quelque chose qu'il veut entendre pour montrer qu'on est humble, quand en effet, derrière cette forme d'humilité, il y a une sacrée couche d'orgueil. Et ça, Dieu le voit. Il le ressent. Et il s'y oppose. La vérité, l'humilité, la repentance donne accès à ce pardon. Et c'est par ce pardon qui nous est acquis en Jésus-Christ, au prix de son sacrifice, que nous pouvons emprunter le chemin de la vie. J'aimerais aller plus loin avec vous, encore dans ce partage de ce texte, puisque la volonté de Dieu, c'est de nous enseigner à bien vivre. Bien vivre. Existent des villes qui ont reçu la reconnaissance où on y vit bien. Il y a des villes considérées comme des villes qui, en effet, ont pensé à tout pour donner un bien-être à ceux qui y habitent. Et quand on entend ça, parfois on pourrait être tenté de se dire « mais c'est là-bas que j'aurais dû m'installer ». Parce que là où j'habite, ben je galère, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, il y a des choses où malheureusement ce n'est pas fait de la bonne manière, alors ça serait super de pouvoir vivre à un endroit où tout fonctionne bien. Mais vous savez, c'est ce que Dieu a offert à l'homme. Mais dès le départ, l'homme n'en a pas voulu. Dieu avait offert à l'humanité un jardin dans lequel il y avait tout ce qu'il avait de besoin. Et pourtant, puisque l'homme voulait ce qui ne lui était pas prévu, préparé, disposé, il voulait se sentir comme Dieu, et il a accepté le mensonge, il s'est laissé séduire par Satan, et il a désobéi à Dieu, mais il a refusé cet enseignement. Il a refusé cette volonté de Dieu pour lui de bien vivre. Au verset 10, David dira « Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. » Vous entendez bien ? Pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. Voulez-vous bien vivre ? Ben, apprenez ses préceptes et gardez son alliance. Au verset 12, il dira, quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Et au verset 13, il dit, son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. Il n'est pas question seulement pour nous-mêmes, pour notre vie d'aujourd'hui. Il est question aussi d'avoir un repos éternel dans le bonheur, connaître la joie éternelle, mais aussi d'assurer à nos enfants, à nos familles, un héritage, un don, quelque chose de particulier, une possibilité d'accéder à un héritage, de posséder le pays. Alors, ce n'est pas forcément une possession de terre. Vous savez, malheureusement, après le décès d'une personne, après les moments des larmes, suit parfois ce moment très compliqué où il y a le partage de l'héritage. Et tous les partages d'héritage ne se passent pas bien. Parfois, cet héritage qui se voulait être un bien, être, je dirais, un plus pour les générations à suivre, un cadeau, s'est transformé dans un cadeau empoisonné parce que ça a séparé les familles. Ça a causé des déchirures, ça a causé des souffrances. La volonté de Dieu, ce n'est pas de nous donner un cadeau empoisonné. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions recevoir et offrir à nos enfants quelque chose qui leur fera du bien, quelque chose qui leur donnera, je dirais, à quelque part du bonheur. Et quel meilleur bonheur que de connaître Dieu et de partager à nos enfants, à nos familles, ce bonheur que nous avons pu connaître, vivre, expérimenter et aussi transmettre. Or, la foi est une question de décision personnelle. Néanmoins, la foi vécue est un exemple pour les générations qui suivent. Ceux qui nous ont précédés dans la foi nous ont laissé quand même une trace, nous ont laissé des témoignages, nous ont laissé aussi, pas seulement de l'écrit, mais même du visuel. Moi, je me rappelle de toutes ces personnes que j'ai pu connaître tout au long de ma vie, ainsi que de mes grands-parents qui avaient donné leur cœur au Seigneur et pourtant ils avaient vécu tellement de difficultés. Ils avaient connu la guerre, ils avaient connu la souffrance, ils avaient connu d'énormes moments difficiles. Et pourtant, ils avaient pu expérimenter cette grâce de Dieu. Et à chaque fois qu'ils nous en parlaient, à chaque fois qu'ils nous partageaient un petit bout de leurs histoires, mais ô combien de souvenirs et en même temps, quelle émotion de les voir et de les entendre nous partager comment Dieu les avait aidés. Il est important pour nous d'apprendre à bien vivre, mais il est important pour nous aussi d'être un exemple d'une vie bien vécue. Au verset 14, Dieu nous propose, désire, nous révéler sa pensée, sa volonté, son dessein pour nous, son désir. Et encore, il dit, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alors le mot craignent, je préfère à chaque fois le réexpliquer. Il n'est pas question de la crainte, de la peur, mais de ceux qui ont un saint respect, de ceux qui considèrent Dieu comme celui qui a toute autorité et celui à qui on se soumet, celui à qui on a donné notre vie et qu'on aime. Ce n'est pas une soumission comme si Dieu s'imposait, comme, je dirais, quelqu'un qui vient user d'autorité, mais on reconnaît en Dieu un Père, un Dieu qui nous aime, un Sauveur. Et son amour, sa bonté, pour ceux qui le suivent, pour ceux qui marchent, pour ceux qui ont ce saint respect de qui il est, fait que il nous révèle, il nous ouvre les regards, il nous ouvre les yeux, il enlève le voile sur les projets qu'il a. Il nous montre combien il nous aime. Et au verset 15, il dira à David, « Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. » Ça sent l'expérience. Ça sent le discours d'un homme qui s'est trouvé déjà avec les pieds dans le filet, s'est déjà retrouvé dans des situations qui ont été un piège pour lui. Et le seul secours possible dans sa situation, ça a été de tourner ses yeux vers Dieu. Si aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui raisonne, qui sent le piège. Je voudrais vous inviter à ne pas tarder, mais tournez vos regards vers Dieu. C'est un acte de foi que de venir à Dieu et dire « Seigneur, sois mon secours, mes regards se tournent vers toi. » Au lieu de chercher des solutions à droite, à gauche, « Seigneur, je tourne mes regards vers toi, je cherche en toi la solution à mon problème. Je cherche vers toi un secours, je cherche vers toi cette main qui viendra me relever, me sortir de ce filet, de ce piège, Seigneur, et je compte sur toi parce que je sais qui tu es. Je sais que tu es Dieu. Je ne viens pas vers Dieu avec des revendications. Vous savez, c'est terrible parfois quand on vient demander quelque chose à Dieu avec une forme de revendication. Ce n'est pas avec revendication qu'on peut s'approcher de Dieu. C'est avec un saint respect. Imaginez aujourd'hui de vous retrouver devant une autorité et d'y aller avec des revendications. Je pense que votre échange ne va pas durer longtemps. Et je dirais que même les oreilles de celui qui vous écoute vont vite se fermer et ses sentiments vont vite exprimer plus un désir de couper court à la discussion que de vous écouter jusqu'au bout. Dieu n'a pas besoin d'argumenter avec nous. Et on a beau essayer de lui raconter une belle histoire, Dieu connaît la vérité sur nous. Alors le mieux, c'est d'être vrai avec Dieu. D'avoir ce saint respect de dire « Seigneur, je sais que tu sais tout. » Et puisque tu sais tout, Seigneur, je ne veux pas venir envers toi avec de la ruse, avec du mensonge, puisque tu n'aimes pas cela. Mais je viens vers toi avec ce cœur repentant et je cherche en toi, Seigneur, le secours. Donne-moi, Seigneur, révèle-moi ta pensée. Donne-moi, Seigneur, de la sagesse. Accorde-moi du discernement pour savoir comment me sortir de cette mauvaise situation. À partir du verset 16, on voit aussi que le roi David, malgré le fait qu'il était roi, on pourrait penser que pour un roi, puisqu'il est roi, tout va bien. On pourrait se dire quelqu'un qui a une place de responsabilité telle que le roi, il a tellement de sujets autour de lui, il a tellement de personnel qui peut facilement déléguer tout ce qu'il n'a pas envie de faire. Néanmoins, que nous soyons rois ou que nous soyons pauvres, nous restons des êtres humains avec des conflits qui sont parfois extérieurs, des combats, des difficultés. Certes, avoir la vie d'un roi et la vie de quelqu'un de pauvre économiquement, c'est pas la même vie, on est d'accord. Ça n'a pas la même attrayance. On n'aurait pas envie forcément, si on pouvait choisir, de choisir la vie du pauvre, si on pouvait choisir de vivre la vie du roi. Néanmoins, pour roi qu'il était, il nous montre aussi qu'il était homme. Et je voudrais nous rappeler à chacun d'entre nous que peu importe la position sociale que nous pouvons avoir, la responsabilité que nous pouvons avoir, je dirais même le compte en banque que nous pouvons avoir, chacun d'entre nous vit des choses qui nous touchent de manière personnelle et profonde. Et le roi David va exprimer cela de la manière suivante, à partir du verset 16. « Tourne-toi vers moi, fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. » Étonnant ce discours de la part d'un roi qui avait quand même une cour. Mais il était seul dans son combat intérieur. Il dit au verset 17 « Les angoisses ont rempli mon cœur. » On peut être dans une foule, on peut se retrouver entouré d'une famille aimable, aimante, on peut se trouver entouré d'amis et pour autant être angoissé au plus profond du cœur. Il dira « Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me haïssent. » Alors certes, le roi David, il avait des ennemis. Il avait des conflits avec d'autres peuples. Mais il n'y a pas que ce type de conflit, il n'y a pas que ce type d'ennemi. Parfois, l'ennemi est tout simplement les angoisses, les peurs que nous pouvons avoir, et on peut avoir différentes peurs. Peur de sortir. En ce moment, peur de ce virus. Peur du contact avec les autres. Combien d'angoisses peuvent habiter des cœurs aujourd'hui et en ce moment même? Et peut-être vous qui m'entendez aujourd'hui, vous passez par des angoisses. Ces angoisses qui ont rempli votre cœur. Et le roi David, ce roi qui avait connu cette ascension incroyable de pauvre berger à roi, lui aussi, malgré les richesses qu'il pouvait avoir dans ses coffrets à trésors, il prouvait des angoisses. Mais il savait aussi qu'il pouvait demander du secours à Dieu. Alors, que nous soyons rois ou que nous soyons pauvres, soyons humbles et venons vers Dieu. Et au verset 20, il dira « Garde mon âme et délivre-moi ». C'est une prière. Quand je me réfugie en toi, Seigneur, garde mon âme et délivre-moi. Seigneur, je viens me blottir contre toi en cherchant, Seigneur, un secours. Et il dira au verset 21 que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. Ce n'est pas en essayant de trouver des chemins tordus, excusez-moi, ce n'est pas en essayant de chercher des raccourcis qu'on règle nos problèmes et nos angoisses. Je dirais que quand on essaie de trouver des raccourcis et qu'on ne veut pas emprunter le juste chemin qui est dans la vérité, dans la droiture, généralement, les angoisses augmentent. C'est quand un cœur est libre, quand il n'a plus peur de ce qu'il peut lui être reproché, que les angoisses disparaissent. Enfant, j'ai été un enfant quand même pas toujours facile, très mouvementé. Et quand je faisais des bêtises, du moment que ma mère m'appelait pour aller la voir, je savais quelque part qu'elle avait dû découvrir quelque chose. Et déjà mon regard lui faisait comprendre que j'avais fait une bêtise. La manière d'éviter son regard, de croiser ses yeux, lui faisait entendre que j'avais fait une bêtise, alors qu'elle ne m'appelait pas forcément parce qu'elle avait su quelque chose, mais mon comportement était révélateur. Et jusqu'au moment où ce que j'avais fait restait en moi, était caché, je vivais mal cette relation, j'avais toujours cette crainte, j'étais mal à l'aise vis-à-vis de mes parents, parce que je savais que j'avais fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais du moment où cette vérité sortait, du moment où je confessais mes erreurs, je disais à mes parents « voilà ce que j'ai fait, j'en suis pas fier, je demande pardon » et j'assumais mes responsabilités, je venais de la bonne manière, malgré la punition qui allait suivre, qui était juste, mon cœur était libéré. Peut-être vous avez vécu la même chose. Ou peut-être vous avez été des enfants très sages. Je l'espère pour vous, je vous le souhaite. On ne va pas faire la liste des punitions, mais recherchez bien dans votre mémoire. Et je voudrais vous dire aujourd'hui comment venons-nous vers Dieu? Pouvons-nous tourner nos regards vers Dieu? Pouvons-nous véritablement, avec un regard libéré, avec un cœur libéré, regarder vers Dieu, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui qui nous amène à nous sentir mal à l'aise. Si c'était le cas, le but c'est pas d'éviter le regard de Dieu. Le but c'est de revenir à Dieu de la bonne manière. Le but c'est de chercher en Jésus cet avocat qui sera plaider notre cause. Mais néanmoins, je rappelle que il y a un désir personnel de venir à Dieu de la bonne manière. J'aimerais nous encourager, chacun d'entre nous, à vivre une vie de foi, mais une foi qui connaît ses victoires, une foi triomphante, une foi qui grandit, une foi qui mûrit, une foi qui est réelle, non pas quelque chose qui est basé sur une belle histoire, mais une réalité de vie. J'aimerais terminer cette méditation avec le texte avec lequel on a commencé, de 1 Jean chapitre 5, versets 3 et 4. Je vous le relis. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. » C'est notre foi. La foi est l'amour en Dieu. Accepter de vivre ses commandements. Je vous rappelle que triompher implique une nouvelle naissance en Christ. Et la foi est l'exercice pratique de tout cela. De l'amour de Dieu, de la vie, de l'acceptation, mais aussi de la soumission à la parole de Dieu et de cette véritable vie nouvelle en Christ. J'aimerais terminer avec cette phrase pour triompher. Il faut accepter de se battre et d'exercer sa foi. Je vous invite à prier. J'aimerais terminer ce moment de méditation et vous laisser encore le temps de manière personnelle, après de prier, de demander à Dieu de vous soutenir dans ce que vous vivez. N'hésitez pas à reprendre la lecture, n'hésitez pas à réécouter le message si vous le souhaitez. Mais que vous puissiez vivre une vie triomphante par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta parole, pour la grandeur, pour la richesse, pour la bonté, pour la bienveillance qui sont les tiennes. Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Merci pour cette grâce qui nous est accordée, Seigneur, de pouvoir tourner nos regards vers toi et de connaître, Seigneur, cette victoire que toi seul tu peux nous accorder. Seigneur, cette victoire par la foi, cette victoire, Seigneur, dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, cette victoire, Seigneur, dans cette proximité, cette victoire, Seigneur, dans cette nouvelle naissance. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci de nous avoir ouvert le chemin. Seigneur, merci de nous avoir offert un chemin incroyable, merveilleux, en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie encore pour tous ceux et celles qui ont écouté ce message et qui aujourd'hui même ont pris la décision, ont fait le choix ou le feront dans les heures qui suivent, Seigneur, suite à un temps de partage de cœur à cœur avec toi, Seigneur. Seigneur, de faire de toi leur soutien, leur force. De faire de toi, Seigneur, leur Dieu. Merci encore, Seigneur, merci pour ta parole. Nous te bénissons et nous te glorifions et nous te prions au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous rappelle que nous nous donnons rendez-vous à nouveau vendredi soir. Que Dieu vous garde.